L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est un peu plus de 4 heures du matin. Nous sommes le 3 octobre 1945 dans le port de New York. Le Lalandia, cargo mixte danois de la Cunard Line, atteint la quarantaine. Il est à quelques encablures de la Statue de la Liberté. Un sale crachin, un brouillard laiteux et devant, la pyramide en béton de Manhattan. Les officiers de la douane montent à bord, puis ceux de l'immigration. Dans le salon des premières, ils tâtent le bras, examinent la langue, puis les fonctionnaires contrôlent les passeports. Le département Justice US Immigration and Naturalization enregistre l'arrivée sur le sol américain du citoyen belge Georges Simenon, de son épouse Régine et de leur fils Marc. Il est presque 6h30. Dès l'instant où Simenon pose le pied sur le quai, il enclenche son heure H, peut-être la plus importante, la plus féconde de sa vie. Une heure H qui, exceptionnellement, va durer 10 ans. Ce qu'il est loin de prévoir, c'est ce qu'il attend. Il va vivre de passion, de sexe, de bourbon et de roman. Il va se brûler aux jalousies, aux déchirures. Il va traverser des paysages de western, des nuits comme les peint l'artiste américain Edward Hopper. Il va se saouler de blues et de jazz. Il va vivre un changement radical de perspective. Il vient de passer de l'ancienne Europe à l'avenir du monde. Nous sommes le 3 octobre 1945. Il est presque 6h30. C'est l'heure H de mon histoire. Pour l'instant, on ne peut pas dire que le moral des Simenon frise l'enthousiasme. Ils sont aussi tristes que les lumières glauques qui escaladent les gratte-ciels. Régine Simenon se sent comme en exil. Elle sonde le vide de leur couple. Quant à l'état d'esprit du romancier, c'est guère mieux. Oh, certes, l'écrivain est très célèbre en Europe. Mais en lui, les sentiments se bousculent. C'est à la fois un soulagement, un reste de peur, une rancœur tenace. Mais surtout, une impression de vide, de néant créatif, affectif, amoureux. Première impression. Le sentiment d'avoir frôlé le pire. Que fait ce Belge, ce liégeois de 42 ans à New York? Il fuit. Du moins, il a fui. L'année 1945 est pour lui une séquence de panique. Il a joué son va-tout. Il a quitté une Europe détruite, blessée, aux ambitions défaites. Et lui aussi est meurtri. Lui aussi compte ses ambitions blessées. Mais pourquoi donc a-t-il fui en catastrophe la France, où il vivait depuis les années 20? Il a fui la chasse aux sorcières qui commence à la libération. Depuis le 30 janvier 1945, il a été successivement accusé de collaboration par des lettres anonymes, assigné à résidence, soupçonné, inculpé pour intelligence avec l'ennemi, interrogé par la Sûreté nationale. Encore aujourd'hui, en 2023, des chercheurs sans archives le soupçonnent d'avoir sympathisé avec l'occupant. Ils le confondent parfois avec son frère Christian, qui, lui, est entré dans l'organisation Rex de De Grelle et a été condamné à mort par contumace pour sa participation à la tuerie de Courcelles de 1944. Pour en finir avec ses suspicions, une bonne fois pour toutes, il faut sortir de son secret le document essentiel signé du commissaire du gouvernement de la France libérée en date du 18 avril 1945. On y lit très clairement que les publications des romans de Simenon durant l'occupation n'ont, je cite, « aucune tendance politique, qu'aucun fait précis de collaboration ne lui est imputé et que, de l'information, il n'est pas résulté contre le susnommé des charges suffisantes d'avoir entretenu des relations avec une puissance ennemie. » Ce document est sans appel. Il prouve le classement sans suite de la procédure contre Simenon. Mais seulement voilà. Dès le début du conflit, le romancier s'est refusé à diminuer ses revenus, bien décidé à maintenir très haut son train de vie de romancier star. Opportuniste, il a été imprudent, comme le note son avocat, maître Maurice Garçon, dans son journal récemment paru « Simenon est un arriviste ». Dès lors, en février 1941, comme beaucoup d'autres artistes du cinéma français, il s'est lié par contrat à la Continental Film, une société à capitaux allemands créée pour produire des films français sous l'occupation. De 1942 à 1945, cette société a produit 9 films adaptés de Simenon. Et c'est pour cela qu'on le poursuit. On le fera jusqu'en juillet 1949, date à laquelle il est interdit de publier durant 2 ans, coupable de trop de succès littéraires et cinématographiques sous l'occupation. À la demande de maître Maurice Garçon, on rouvrira le dossier et la procédure se soldera par un non-lieu. On comprend dès lors son état d'inquiétude et de dégoût quand il débarque aux États-Unis. En revanche, il ne faut surtout pas croire que la fuite est son seul mobile. Depuis pas mal de temps, il ressent le besoin de changer de vie, d'espace, de couple, d'inspiration romanesque. Il a tout exploré dans cette France qu'il a absorbée par tous ses sens. Il étouffe dans son couple, qui n'en est plus un. Déjà en 1942, il avait demandé à sa secrétaire de faire les démarches pour aller vivre aux États-Unis, parce qu'il a compris que c'est là que se trouve l'avenir du monde. À New York, Simenon découvre qu'il est quelque peu célèbre. Ses romans y sont traduits depuis 1932 et le public connaît l'inspecteur Maigret. L'inspecteur Maigret, comme ils disent. Des journalistes américains se précipitent pour l'interviewer. Il leur parle de ses projets hollywoodiens. Bref, il se lance dans la course au dollar. D'abord, il lui faut nouer de nouveaux contacts avec des éditeurs pour gagner sa bataille américaine, comme le dit Régine, son épouse. Une épouse d'ailleurs qui ne l'est plus guère. Régine a découvert en 1944, enfin, les infidélités de son conjoint. Depuis, ils font chambre à part, maison à part et bientôt feront ville et vie à part. Ne maniant pas l'américain, les Simenon s'installent en premier lieu au Canada. Les voici dans la mythologie du Grand Nord, au domaine de l'Estérel, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est un immense domaine de luxe créé par un autre Belge, le Baron en Pin. Simenon va y occuper un chalet, la Loge 5, bungalow en bois de 10 mètres sur 4. Il va y vivre, y aimer et y écrire. De sa fenêtre, il contemple le lac gelé. Chaque matin, il doit pelleter la neige pour sortir de chez lui. Régine et Marc se sont installés quelques maisons plus loin, dans une demeure plus vaste, plus moderne. Le couple y fêtera la Noël 1945. Ouais, couple est un grand mot. Régine lui parle de sa souffrance, de leur échec amoureux, mais elle perçoit la distance qui les écarte de plus en plus. Elle comprend que Simenon n'a plus foi en ce qu'ils ont vécu ensemble. Chacun reprend donc sa liberté. Mais une liberté pour quoi faire? Les premières priorités pour le romancier: engager un agent littéraire à New York, dénicher une automobile d'occasion, trouver une secrétaire. En cherchant cette dernière, il va trouver une brûlure, une incandescence, un enfer. 3 mois sans écrire une ligne. 3 mois de jalousie, de tension, de coups de fil, de rendez-vous, de corps à corps à l'hôtel, de jazz dans la nuit. 3 mois à ne penser qu'à une seule femme. Et quelle femme ! Voilà ce qu'il va vivre. C'est une Canadienne. Elle se nomme Denise Ouimet. Il la rencontre très vite, le 5 novembre 1945, soit 1 mois après son débarquement. Simenon a choisi le restaurant, et pas n'importe lequel. Le Brussels, dirigé par Pagani qui a tenu un établissement à Bruxelles. À 2 pas de Central Park, le romancier y a déjà ses habitudes. Il s'y délecte de l'anguille au vert. Et le patron a coutume de saluer son entrée par un « Bonjour, maître !» énorme. Quand Simenon arrive, en retard, la demoiselle Ouimet est déjà assise devant un apéritif. Elle n'apprécie pas du tout son retard, dû en fait à la rareté des taxis en ce jour d'élection au Congrès. Jolie, petite, vêtue d'un tailleur bleu, elle est tout ce que Simenon déteste, maigre et très maquillée. Lui qui aime les blondes naturelles et dodues. Décidément, il aurait dû garder son rendez-vous avec la call girl qu'il avait appelée. Une mannequin rousse à la voix engageante. Les call girls, voilà déjà une nouveauté qu'il découvre aux États-Unis et qu'il apprécie. Un téléphone et à côté, une femme disponible. Parfait. Parfait pour meubler sa nouvelle liberté. Simenon et son invité mangent, boivent, parlent de cette fin de guerre, d'elle, de lui. Trop sûr de lui, il est trop sûr de lui. Et Simenon l'agace. Elle remarque, malgré tout, les mains très belles, la lèvre inférieure sensuelle, les yeux surtout. Marron aux paillettes vertes. Et puis de son côté, le romancier apprécie la voix rauque de la jeune femme. Une voix de boîte de nuit, de chanteuse de blues. Que fait-elle ? Elle dirige l'information britannique pour 3 États américains, mais vise une place de secrétaire dans la société L'Air Liquide. Dès lors, elle s'excuse. Je ne suis pas sûr de devenir votre secrétaire, monsieur Simenon. Alors, pourquoi est-elle venue ? Curiosité ? Excitation d'une rencontre ? Attrait pour un écrivain célèbre ? Denise aime les hommes. Elle ne nie pas ses aventures. Après le repas, ils marchent dans Central Park. Elle précise soudain que son prénom s'écrit avec un Y et non un I. Il lui en demande la raison. Parce qu'avec un Y, cela fait plus dionysiaque. Simenon est averti. Denise a un rendez-vous professionnel l'après-midi. Il insiste pour la revoir le jour même, à 4 heures. Elle le rejoint au Drac Hotel. Ils boivent du Bordeaux, puis les bars s'enchaînent. Ensuite, un restaurant pour un dîner aux chandelles, un piano noir qui joue du blues. La vie de Simenon bascule. C'est le coup de foudre, lui qui n'y a jamais cru. Ils vont danser à Greenwich Village. Sous whisky, ils déjantent, se caressent, choquent par leurs attouchements les clients américains qui traitent les Français de dépravés. L'Amérique est plus que prude. Ils remontent la 5e avenue, grignotent des hot-dogs, inconnus de Simenon. J'avalais tout ça que je détestais. J'aimais les femmes simples et j'étais tombé sur la plus compliquée que j'eusse jamais rencontrée. Ils reviennent à l'hôtel Drac. Soudain, « Stop !» déclare le portier. « Un couple non marié ne peut partager la même chambre. » Heureusement, Simenon a une suite à 2 lits. L'honneur du Drac est sauf, ainsi que la loi puritaine de l'Amérique. Le lendemain matin, ils deviennent amants. Et Simenon n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. Le gémissement devint un cri et on devait l'entendre de la chambre voisine. Enfin, alors qu'un spasme la secouait, ses yeux se révulsèrent et je fus presque effrayé de ne plus voir que le blanc. J'avais connu beaucoup de femmes, mais je n'en avais jamais vu jouir de la sorte. À un instant, je me demandais si c'était réel, si Denise ne feignait pas le plaisir. Il découvre une femme sexuellement très libre et elle se raconte. Elle a connu 27 amants avant lui. Elle lui raconte aussi une scène à la Lana Turner ou à la Marilyn. Invitée dans une partie chez des gens fortunés à Philadelphie, elle nageait nue dans la piscine quand soudain, le propriétaire a allumé les projecteurs aux 4 coins du bassin. Elle en a été ravie. Simenon aurait-il trouvé plus fort que lui ? En tout cas, Denise perçoit sa chance. Trouver un amant, qui plus est une célébrité, et y joindre le plaisir charnel. Soudain, la Canadienne exige plus de la vie et arme ses ambitions. Alors s'enchaînent d'autres rencontres torrides, teintées d'alcool et de jalousie. Simenon se déchaîne quand il apprend que son premier amant s'appelait aussi Georges. Désormais, il sera Joe. Il exige qu'elle brûle ses anciennes lettres d'amour, les vêtements portés avec d'autres. Il devient violent. Denise accepte. Un jour, à peine arrivée dans la chambre, elle se déshabille comme le ferait une stripteaseuse en l'observant du coin de l'œil. Il plonge en elle. « Je ne vaux pas grand-chose, » lui dit-elle alors. « Je sais que tu essayes de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Je ne suis qu'une... » Denise pousse la jalousie de Georges pour qu'il la brutalise. Et cet homme comprend soudain que la passion, contrairement à l'amour, s'alimente aussi de violence. Il la brutalise, elle le gifle. Ils ont besoin de boire pour entretenir et attiser leur feu intérieur. Et Denise lui lance « Je n'ignore rien des hommes, vois-tu. Et tu n'es pas différent des autres. » Dans chaque boîte de nuit, elle demande qu'on lui chante « Bésame mucho ».
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous vivons l'aventure américaine d'un Georges Simenon exilé. Pendant 10 ans, l'écrivain liégeois va vivre de passion, de sexe, de bourbon et de romans. Aux côtés de sa nouvelle secrétaire, mais surtout amante, Denise Ouimette. Début janvier 1946, Simenon fait venir Denise à Sainte-Marguerite, au Canada. La tension monte à son comble entre l'épouse et la nouvelle secrétaire. Simenon se cloître avec elle dans son bungalow. Il s'abîme dans l'excès, contracte une pharyngite en lui faisant l'amour dans la neige par moins 20 degrés. Mais il est aussi romancier. Et déjà, il a absorbé le New York, qui va lui servir de cadre au nouveau roman qu'il écrit. Dès le 15 janvier 1946, dans son bungalow, à savoir « Trois chambres à Manhattan ». C'est un de ses romans les plus attachants, son « premier roman d'amour », annonceront les presses de la cité. Son héroïne, Kay, n'est pas Denise, mais elle lui ressemble. Son héros, François Combes, est un Français du même âge que l'auteur. Et comme lui, il n'est plus attaché ni à un pays, ni à une famille. Les deux personnages du roman se rencontrent dans le même New York, vivent une histoire d'amour semblable. Kay, l'héroïne, va prouver à son amant qu'on peut encore croire à la vie, à leur rencontre, à ce qui peut en advenir. Optimisme rare chez Simenon, qui a toujours considéré l'amour comme une maladie. Sous les mots du roman, l'auteur cache une soudaine confiance dans le présent et aussi dans l'avenir. Il offre d'ailleurs le manuscrit à sa nouvelle compagne avec cette dédicace à Denise, pour qu'elle n'y pense jamais plus. Et comme si New York était devenue sa ville fétiche, il enchaîne avec un Maigret à New York. Mais il s'impatiente. Comme d'habitude, il ne peut rester en place. Deux voitures d'occasion vont très vite quitter les neiges du Canada. Comme dans sa nouvelle vie affective, Simenon et son épouse font voiture à part. L'une avec lui, son fils Marc et Denise, l'autre avec Régine et l'institutrice de Marc. Le romancier découvre ainsi ce qui fait la légende et l'esprit américain, la route. Voici donc une nouvelle donne pour lui. Le voici « on the road », comme le seront bientôt les personnages américains des romans et des films noirs, les stars du rock et les acteurs de Hollywood. Mythologie qu'il traduira lui aussi dans un superbe roman à l'américaine, « Feu rouge » en juillet 1953. Ces mythiques routes américaines les amènent finalement sur la côte ouest de la Floride. 5000 kilomètres du nord au sud. Sur la route, Simenon collecte d'autres pratiques américaines. Les autoroutes à péage, la radio dans la voiture, des pubs toutes les 10 minutes, les hot dogs, ice cream et Coca-Cola dans les drive-in, les supermarchés avec leurs poussettes, les rooms for touristes et les motels pour faire l'amour. Simenon, émerveillé, change d'époque. Il abandonne ses jugements préemptoires et ses idées reçues sur les Américains. Au bout de la route, il s'installe en octobre sur une presqu'île de la côte ouest de la Floride. Maison à part pour les époux Simenon. Quant à Georges et Denise, ils dénichent un bungalow de bois sur l'île d'Anna Maria, un véritable décor paradisiaque aux portes de l'Éden. Ils s'y installent en octobre 1946. Une bande de sable de plus de 10 km. Des plantes tropicales, le lagon, des maisons sur pilotis, un air humide et chaud. Les deux amants sont seuls au monde. Régine est repartie provisoirement en France afin de gérer leur désastreuse situation financière. Simenon est pris d'une furieuse envie d'écrire en novembre. Il commence « Lettre à mon juge » avec des fantômes plein le ventre. Un roman violent, dur, personnelle aussi, car les crises de larmes de Denise l'inquiètent. Son besoin de la posséder intégralement le ronge. Alors il tape à la machine, dans la chaleur intense du bungalow, tout nu, des mouchoirs noués au poignet pour canaliser la sueur. À la première personne, il y crie et décape ses propres peurs. Je l'ai écrit pour me débarrasser de mes fantômes et pour ne pas faire le geste de mon héros. Quel geste ? Dans son roman, Simenon imagine un couple. Martine a la même jouissance hystérique que Denise et son amant, le médecin à l'avoine, est pris d'un désir fou de possession. Il l'étrangle afin de l'avoir à lui seul. Pulsion, déchirement, passion totale. On est déjà loin de la tendresse des Trois chambres à Manhattan. Œuvre essentielle, reportage en direct et en différé sur leur couple. Denise dira « La vérité dépasse trop souvent la fiction ». À la Noël 1946, tout va bien. Au comble du bonheur, ils dégustent champagne et foie gras devant leur bungalow face au golfe de Floride. Bain de minuit, ils nagent nus et font l'amour sous les palmiers. Ils se paient une escapade à Cuba en janvier 1947. Simenon y donne une conférence à la demande de l'ambassadeur de France. Sa réputation, on le voit, est certaine. Cela ne signifie rien. L'Amérique le traduit, l'édite, mais tarde à le reconnaître en tant qu'écrivain. Et des fissures commencent à apparaître. Une première crise secoue le couple. Crise de jalousie féroce et irrépressible de Simenon qui ne tolère pas que dans un nightclub, Denise accorde une danse à un marin cubain. Crise nerveuse de la jeune femme. Elle se précipite hors de la chambre, quitte l'hôtel, se jette à l'eau, nage vers le large. Simenon la supplie de revenir, plonge à son tour. Elle se débat, elle veut mourir. Il n'a donc pas réussi à la guérir d'elle-même, de ses fantômes à elle. Alors que faire ? Il décide de calmer leur hystérie commune dans les nuits chaudes de la Havane. Au club de l'Eden Hotel, une de leurs soirées va révéler bien des fantasmes. Deux danseuses leur proposent un show lesbien en privé. Une blonde oxygénée et une mulâtresse aux yeux noirs. Sur le lit à baldaquin qui leur sert de scène, les filles miment le plaisir. Le spectacle est osé, inédit. Simenon a la gorge sèche. Denise est fascinée. Les filles les invitent à les rejoindre. Joe se glisse entre les deux filles. Denise y prend un tel plaisir qu'ils y retournent le lendemain, sympathisant avec les deux filles autour d'un Cuba Libre. Croyant que la route va guérir cette première crise, Joe met le cap vers l'ouest, traversée plus que mythique d'est en ouest. Go West appartient à l'ADN des Américains. Alors, ils foncent à bord d'une rutilante Packard 48 bleu ciel, la vraie voiture du rêve américain. Commandes électriques, changement de vitesse automatique, capitonnage en cuir rouge, air conditionné. Il a découvert dans une revue une photo qui l'a fasciné. Un espace infini couvert d'une herbe bleue. Cette herbe bleue l'obsède, le fait rêver. C'est un paysage de l'Arizona et ses souvenirs de western dans un petit cinéma qu'il fréquentait à Liège dans sa jeunesse font le reste. Et puis, il y a en lui son éternelle pulsion du changement. Il en parle à Denise. J'ai passé ma vie à changer de cadre et d'habitude. J'arrive quelque part, je fais mon trou jusqu'au jour où, sans savoir pourquoi, je ne me sens plus chez moi. Il lui fait comprendre qu'alors, il n'a plus rien à retirer des habitants, des décors, des meubles même. Cela signifie qu'un changement d'espace neuf lui est nécessaire, car ce sera aussi un lieu dont il se souviendra plus tard pour cadrer un roman futur. Simenon n'invente aucun décor. Il a besoin du réel. De la caution du réel. Il avale donc le bitume. Alabama, Mississippi, Louisiane, Texas, Nouveau-Mexique et enfin, l'Arizona. Terminus à Tucson. 100 000 habitants, 42 degrés à l'ombre, rien que du sable et des cactus nommés saguaros. Il entre dans le plus parfait décor pour films de l'Ouest. On y tourne d'ailleurs quantité de western. Simenon y dépose ses bagages le 9 septembre 1947. La demeure qu'il va louer va devenir un enfer. Une chambre pour Marc et Régine, qui, ne l'oublions pas, est toujours son épouse légitime. Une autre pour lui et sa maîtresse, chambre qui communique avec celle de Régine. Cela peut paraître impensable. Et très vite, il va amplifier l'incendie en faisant revenir de France Boule, sa servante maîtresse, avec qui il a eu des relations quotidiennes. Celle avec laquelle il était quand Régine les a découverts en train de faire l'amour en 1944. Il décrète une existence en commun, le consentement de chacune. Comment dès lors s'étonner que plus tard, Régine parlera d'une période odieuse? Mais cette cohabitation semble lui convenir. Côté littéraire, il engage un agent cinématographique à Hollywood, certain que quelques-uns de ses romans sont adaptables à l'écran. C'est dans une ancienne écurie, au confort rudimentaire, où il s'installe ensuite que Denise tombe enceinte. Dans le sud arizonien, à Tumacacori, à proximité de la frontière mexicaine. Rudimentaire peut-être, mais Simenon a quand même le téléphone, le 11. Tumacacori en 1948, c'est quelques maisons autour d'une boutique bureau de poste. Le sable du désert et les cancrelats passent sous les portes. Les Indiens cultivent leur lopin de terre. La mission des jésuites espagnols domine un silence de rêve. Un arroyo coule à proximité. Si loin de Paris, si loin de la France, Simenon écrit. Il rédige la première enquête de Maigret et Mon ami Maigret, qui se déroule en France. Dans son roman « Les fantômes du Chapelier », il oublie le désert torride qui l'entoure et nous emmène à La Rochelle, sous une pluie continue. On dirait que d'être éloigné des lieux qui lui sont chers attise sa nostalgie et le pousse à en donner une vision plus poétique encore. Par contre, le fond de la bouteille est bien un roman américain. Il le situe dans la région où il demeure, principalement dans la partie mexicaine de la ville de Nogales, toute proche. Il prête à son personnage, Ashbridge, les nuits sensuelles que lui-même vit dans le quartier chaud de Nogales. Avec Denise, Simenon a ses habitudes au bar Interlope du Border Club, où il descend quelques verres de bourbon. Ensuite, il monte sur la colline rouge où des femmes à demi-nues s'avancent vers sa pacarde pour la guichet. Attiré par ce métissage de sexe, d'exotisme et d'alcool, Denise accompagne son amant. Et c'est un autre paradoxe de ce couple. Contrairement à Simenon, Denise n'est nullement jalouse. Se considérant moins belle que ses filles de passage, mais sachant que son amant continuera à lui faire l'amour, elle avoue en retirer une fierté qui la rassure. Dès lors, nous assistons à une étrange cérémoniale. Dans le bar à filles, elle se trouble en le voyant disparaître avec une métisse à la peau épicée qu'elle a elle-même choisie. Un autre soir, elle lui propose de prendre une indienne de 13 ans trop jeune, avec qui il fait l'amour à contre-cœur. Pendant ce temps, Denise babille avec les autres prostituées dans la salle balayée par les pales des ventilateurs. Elle est heureuse d'apprendre qu'elle apprécie ce client si gentil, qui les respecte et qui se soucie de leur plaisir. C'est la première fois que leur couple fait corps avec le milieu américain où il vit. Leur route qui revient de Nogales serpente dans une plaine cultivée par des Indiens, traversée par des prisonniers évadés qui tentent de passer au Mexique. Des cow-boys conduisent leurs troupeaux d'un pâturage à l'autre. Denise et Joe longent souvent la Santa Cruz River. Ils ont appris qu'elle a des crues meurtrières. Cet arroyo grossit sous les orages d'été, noyant passants et véhicules sous des flots de boue. Partout, dans ce paysage de terre rouge, il y a des ranchs qui vont devenir des repères pour eux deux. Ils prennent vite l'habitude de s'y rendre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, invités par leur propriétaire. On y boit beaucoup d'alcool. Cela les enchante. Parfois, toute la bande décide de finir la soirée dans un autre ranch. Et la fête continue. Le groupe s'élargit. Cela peut durer 2 jours et 2 nuits ou davantage. Le bourbon flambe les consciences. Un soir d'été, Denise et Joe sont surpris par la crue de l'arroyo au retour d'une virée. Pas de pont. Une seule issue. Se déshabiller, traverser à la nage tant qu'il en est encore temps. Sur l'autre rive, à quoi bon reprendre ses vêtements? Ils rejoignent leur chez eux nus comme au premier jour. Longtemps, le romancier se souviendra de ce moment d'Éden. Denise lui apparaît, dira-t-il, comme la femelle. Et je repense à nous deux, nus, après avoir traversé l'arroyo en crue. C'est le plus près que nous sommes allés de la nature. Nous étions comme un couple de coyotes et de vrais coyotes devaient nous regarder passer. L'essentiel de leur Amérique est là, à ce moment précis. Il se résume à leur couple nu sous l'orage de juillet, avant d'autres orages bien plus dévastateurs. Après Manhattan, le Canada, la Floride et les crises à Cuba. Après la cohabitation tendue dans la maison de Tucson, voilà Simenon face à cette femme, à leur couple paradoxal. Les voilà qui prennent le goût de s'alcooliser, qui longent des frontières bien plus dangereuses que la bien réelle borderline du Mexique. Simenon est-il heureux ? Des relations agressives avec son épouse Régine minent le séjour en Arizona. Il régnait une atmosphère de descente de police, se souviendra Boulle. On parle déjà du divorce. Le romancier se demande ce qu'il fait là. Il s'enlise. Sa réussite financière aux États-Unis est loin d'être acquise. Une autre inquiétude le ronge. Sa maîtresse empiète petit à petit sur ses privilèges. Rédige des lettres en son nom, même à ses amis intimes. Stress, nervosité. Il commence à regarder la Canadienne avec d'autres yeux. « Je l'aime », écrit-il. « Je m'en persuade. Et si on me parlait de passion, c'est moi qui me mettrais en colère. La passion, c'est le plus dévastateur des sentiments. Ce n'est pas un sentiment, c'est une fièvre. » Denise a l'impression d'être, comme elle le dit, un oiseau pour le chat. Et Simenon finira par avouer. J'ai essayé de sauver l'oiseau pendant à peu près 20 ans. Le 29 septembre 1949, elle donne à son amant le bonheur d'être père. Jean naît à la maternité de Tucson. Il se prénomme ainsi car son parrain de baptême est le cinéaste Jean Renoir, un ami de longue date que Simenon a eu le plaisir de retrouver à Hollywood. À la fois liégeois et américain, l'enfant sera vite appelé Johnny, puis John, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais cette naissance va-t-elle souder ce couple excessif ?
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H s'américanise sur les traces de Georges Simenon. Exilé aux États-Unis, l'auteur liégeois vit une passion incandescente et excessive avec Denise, entre sexe, bourbon et roman. Jusqu'à ce que leur fils, Jean, qui deviendra John, voit le jour. Après un séjour de 8 mois en Californie, le long de la côte du Pacifique, séjour pendant lequel Denise pouponne, Simenon prend la décision de divorcer. Nous sommes en 1950. Le président Truman autorise la fabrication de bombes H. Le sénateur McCarthy amorce sa redoutable croisade anticommuniste. L'Amérique compte 150 millions d'habitants. Denise se remet au whisky. Le 21 juin, ils prennent avec le petit John le vol Monterey-Reno vers le Nevada. Ils vont entrer à nouveau dans le mythe américain, mais celui-ci ressemble à un roman d'Arthur Miller et à un film de Marilyn Monroe. Pour ce faire, il passe sous une arche d'acier nantie d'une enseigne au néon, bienvenue à Reno, la plus grande petite cité du monde, puis s'installe dans un palace de luxe, Reno. Reno est la capitale du divorce et du jeu, après avoir été longuement celle du vice. Une petite tache dans le désert, un tas de béton, une machine à divorcer, à marier. Bien entendu, le syndicat, lisez la mafia, dirige ce trafic d'une main de fer. C'est dans ce décor que Miller va cadrer son roman « Les Misfits » et que John Huston placera ses caméras pour en diriger l'adaptation cinématographique. Simenon s'imbibe d'une autre Amérique. Néon, couleurs éblouissantes, musique tonitruante et guimauve, foule surexcitée, flic en tenue de cow-boy, accro des casinos, drogué du jeu, surtout des femmes dans la cinquantaine. Pour le romancier, cela ressemble à une grande kermesse triste. Joe, qui n'est pas joueur, s'empare d'une machine à sous à 1$, sort 3 cerises au compteur et ramasse des pièces pour remplir ses deux poches. Chance au jeu. Malchance en amour. La pauvre Régine a dû aussi faire le voyage. Au palais de justice, elle a mis fin le 21 juin à une complicité de 27 ans. Marilyn, dans le film, gravit les mêmes marches pour aller divorcer et murmure « À être seule, je veux l'être toute seule. » Régine doit avoir la même pensée. Le lendemain, 22 juin, dans le même bâtiment, un magistrat en Stetson lit le destin de Mademoiselle Denise Ouimet à celui de Simenon Georges Joseph Christian. Ému, Joe passe la bague au doigt de son épouse, glisse 10$ au juge et emmène Denise en pleine lumière. Comme dans le film, il y a le petit parc où Denise désigne une pièce d'eau minuscule. Une coutume veut que quand on se remarie à Reno, on y lance son ancienne alliance. Eh bien, Simenon a une hésitation, une appréhension, un haut-le-cœur. Liège, c'est si loin. Si loin la première vie. Il n'a pas envie de jeter l'alliance de ses 20 ans, mais il cède à la demande de Denise qui l'embrasse. Elle sait que maintenant, elle est Madame Simenon, épouse d'un écrivain star, célèbre, mais célèbre en Europe. Marilyn Monroe, dans le film, n'a pas envie non plus de jeter son alliance. Et comme dans le film, Simenon va noyer son trouble dans un bar voisin. Travelling avant, sur 2 scotch avec glace. Pourquoi ce mariage ? Je vis avec elle la vraie passion, avec ses élans et ses orages. Je la veux heureuse, simplement heureuse. Denise, elle, a l'impression d'avoir été infidèle à elle-même. Elle, qui a toujours refusé les liens légaux qu'elle juge superflus. Demain, pense Simenon, départ vers l'inconnu. Leur voyage de noces, ils l'ont souhaité en Europe, en France. Mais d'abord, escale à New York, au Drac Hotel, où tout a commencé pour eux. C'est sans compter sur la guerre de Corée qui éclate. Le 25 juin, les troupes nord-coréennes traversent le 38e parallèle. Le lendemain, Truman engage la marine et l'aviation. L'ambassadeur belge à New York dissuade Simenon d'entreprendre un voyage en Europe. Ils vont encore vivre 5 années sur le sol américain, dans une vaste maison de bois, à Lakeville, que Simenon achète dans le Connecticut. Importe-t-il dans cette demeure le bonheur ou le doute, la sérénité ou les déchirements ? Denise baptise le bureau où écrit son mari « The Womb », la matrice. Un visiteur français parle de la maison comme d'une atmosphère de sexualité intense, renforcée par des baisers gourmands de Denise et des allusions équivoques du romancier. Simenon se blottit dans leur amour comme dans un cocon. Son fils John est à ses yeux l'image certaine de son nouveau bonheur. Régine et Marc vivent à part dans une localité proche. Denise, elle, prend le pouvoir. Simenon l'appelle le chien de garde. Elle contrôle les médias, négocie les contrats d'édition, de cinéma, de la télévision, de la radio. À chaque visite de la presse, elle commente et analyse l'œuvre de son mari. Ce dernier est au cœur de ce monde comme un patriarche. Et quand un fonctionnaire de Washington vient lui suggérer de prendre la nationalité américaine, il répond qu'il préfère son statut de résident permanent. Il est vrai que les interrogatoires de la commission McCarthy, qu'il suit à la télévision durant le printemps et l'été 1951, ont de quoi le faire réfléchir. 1953. Naissance de leur fille Marie-George, cette Marie-Jo qui aura un dramatique destin. Simenon a 50 ans. Il aspire par tous les ports la vie américaine. Il comprend que le monde entier va suivre la façon d'être des États-Unis dans tous les domaines. Ce continent a déjà l'avenir du monde entre les mains. Premier computer militaire en 1945. Premier 33 tours et premier transistor en 1948. Premier ordinateur digital Univac commercialisé en 1948. La même année, premier programme de télévision en couleur. fin 1951, câble coaxial, juillet 54, premier 45 tours d'Elvis Presley. La télévision lance les produits commerciaux aussi bien que les hommes politiques. Dans l'intimité de Lakeville, le couple marche encore sur les braises chaudes de leur passion. Plus pour longtemps. Simenon veut Denise telle qu'il la désire, sans coquetterie, sans maquillage, plus rondelette. De son côté, elle brûle les anciens agendas de son mari, les traces de son passé à lui. Il faut peut-être repasser également en boucle une séquence de leur vie quotidienne, séquence qui se répète de plus en plus, séquence d'un mauvais film, où eux seuls sont au générique. Ils sont tous deux en voiture sur les routes sinueuses du Connecticut qui, parfois, passent sur ces ponts couverts, vus et revus au cinéma. Simenon conduit, essaie de montrer à Denise la beauté verdoyante de la région. Il cherche en vain des sujets de conversation, mais il entend son épouse répondre « À quoi bon parler ?» Et elle ajoute « Si nous allions prendre un verre dans ce bar si sympathique, tu sais ?» Ah oui, il sait. Il sait les bars qu'elle aime le long des routes, des bars où il n'y a jamais personne. Il sait le gin tonic, le dry martini, le jukebox, le jazz. Là aussi, c'est une ambiance de film américain. Là aussi, c'est la solitude des peintures d'Edward Hopper. Un jour de mars 1955, Simenon décide de quitter Lakeville et de rentrer en France. Il est irritable, il est sombre. C'est un départ dans l'urgence. Il invoquera des tas de raisons mensongères. La vérité est plus simple et plus crue. Sa bataille américaine est un échec. Son couple bat de l'aile. Il a fini un cycle. Et surtout, il a le mal du pays. Il a la nostalgie de l'Europe, du vert de la campagne, de la France profonde, celle de son éternel Maigret. Voilà pour ce récit passionnant, c'est le cas de le dire, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.